La patience. La générosité, la vénération pour les Bouddhas, le bien qu'on a fait pendant des milliers de kalpas, tout cela est détruit par un instant de haine. Il n'y a pas de vice égal à la haine, ni d'ascèse égale à la patience. Il faut donc, par des moyens variés, cultiver activement la patience. L'âme n'atteint pas la paix, ne goûte pas la joie et le bien-être, ne parvient pas au sommeil et à l'équilibre, tant qu'est fiché dans le cœur le dard de la haine. Cadeaux, égards, protection n'empêchent pas ceux qui en profitent de souhaiter la perte du chef que sa dureté rend odieux. Ses amis même se dégoûtent de lui. Il donne et n'est point servi. Bref, il n'est rien par quoi l'homme irascible puisse être heureux. Celui qui, reconnaissant dans la colère l'ennemi auteur de tous ses maux, l'attaque avec énergie, celui-là est heureux dans cette vie et les vies futures. Né de la crainte réalisée ou du désir insatisfait, le mécontentement est l'aliment de la haine qui, fortifié par lui, me perdra. Donc je détruirai l'aliment de cet ennemi qui n'a d'autre rôle que de m'assassiner. Que la pire calamité m'atteigne, ma joie n'en doit pas être troublée. Car le mécontentement ne me profite en rien, et de plus il dissipe le mérite acquis. S'il y a un remède, à quoi bon le mécontentement? S'il n'y a pas de remède, à quoi bon le mécontentement? Douleur, humiliation, propos blessants ou désagréables, tout cela nous le craignons pour nous et ceux que nous aimons, mais non pour notre ennemi, au contraire. Le plaisir s'obtient à grand-peine, la douleur vient sans qu'on la cherche. Or, c'est de la douleur que vient le désir de se libérer. Sois donc ferme, ô mon esprit. Les habitants du Carnatique et les adorateurs de Durga s'imposent en vain la souffrance des brûlures et des lacérations. Et moi, avec la délivrance pour but, comment pourrais-je être lâche? Il n'existe rien d'irréalisable par l'exercice, donc en s'habituant à des souffrances légères, on arrive à en supporter de grandes. Morsures de serpents, piqûres de guêpes, faim, soif, démangeaisons violentes et autres sensations douloureuses, ne supporte-t-on pas les souffrances inutiles? Froid, chaud, pluie, vent, fatigue, prison, coups, s'en inquiéter, c'est souffrir davantage. Il en est qui, voyant couler leur sang, redoublent de vaillance. Il en est qui défaillent à la vue du sang d'un autre. Cela vient de la fermeté ou de la faiblesse de l'esprit. Il suffit d'ignorer la douleur pour lui résister. La douleur ne trouble pas la sérénité du sage, car il se bat contre les passions, et la guerre ne va pas sans douleur. Ceux qui battent l'ennemi haine, en dépit de leur douleur, ceux-là sont des vainqueurs héroïques. Les autres ne sont que des tueurs de mort. La douleur est un grand bienfait. C'est un ébranlement qui provoque la chute de l'arrogance, la compassion envers les êtres, la crainte des actes nuisibles, l'amour de la vertu. Je ne m'irrite pas contre la bile ni les autres humeurs, bien qu'elles soient cause de grandes souffrances. Pourquoi m'irriter contre des êtres conscients? Eux aussi sont irrités par des causes. De même que ces souffrances sont produites par des humeurs sans être voulues, de même l'irritation de l'être conscient naît par force et sans être voulue. L'homme ne s'irrite pas à son gré en pensant « je vais me mettre en colère », pas plus que la colère ne naît après avoir projeté de naître. Mais toutes les fautes, tous les actes nuisibles se produisent par la force des causes. Il n'en est point qui soit spontané. La réunion des causes ne pense pas qu'elle engendre, et l'effet ne pense pas qu'il est engendré. Ce principe même, qui est postulé sous le nom de matière primitive, ou imaginé sous le nom de « moi », Atman, ne naît pas après avoir pensé « je nais ». Car avant d'être né, il n'existe pas. Comment désirerait-il être? Si l'Atman, éternel, est en contact avec un objet, comment pourrait-il cesser de l'être? S'il est éternel, inconscient et infini comme l'espace, il est évidemment inactif. Même en contact avec d'autres causes, comment ce qui est immuable pourrait-il agir? S'il demeure inchangé quand il est sujet à l'action, quelle différence l'action produit-elle? Si on dit qu'il y a action, quel rapport existe-t-il entre l'atman et l'action? Ainsi, tout dépend d'une cause, et cette cause aussi est dépendante. Contre des automates pareils à des créations magiques, à quoi bon s'irriter? Mais, dira-t-on, la résistance à la colère non plus n'est pas possible. Qui résisterait et à quoi? Si, elle est possible. Puisqu'il y a enchaînement des causes, il y a possibilité d'abolir la douleur. Donc si l'on voit un ami ou un ennemi tenir une conduite répréhensible, il faut se dire « ce sont ses antécédents qui agissent » et garder sa sérénité. S'il suffisait à tous les hommes de désirer pour réussir, personne ne souffrirait, car personne ne souhaite la souffrance. Par imprudence, les hommes se déchirent aux ronces. Par convoitise, par désir pour les femmes, ils se privent de nourriture. Il en est qui s'infligent toutes sortes de tortures. Ils se pendent, se précipitent, s'empoisonnent, s'intoxiquent, commettant ainsi de lourdes fautes. Si, sous l'influence des passions, ils détruisent leur corps qui leur est si cher, comment épargneraient-ils celui des autres? Envers ces hommes affolés par les passions, acharnés à leur propre perte, loin de manifester de la pitié, on éprouve de la colère. Pourquoi? Si la nature de ces insensés est de faire du mal aux autres, il n'est pas plus logique de s'irriter contre eux que contre le feu dont la nature est de brûler. Si au contraire cette tare est passagère, et si les hommes sont naturellement bons, la colère est aussi peu justifiée envers eux qu'elle ne le serait à l'encontre de l'air envahi par une âcre fumée. On ne s'irrite pas contre le bâton, auteur immédiat des coups, mais contre celui qui le manie. Or cet homme est manié par la haine, c'est donc la haine qu'il faut haïr. Jadis, moi aussi j'ai infligé aux êtres une pareille souffrance, donc je ne reçois que mon dû, moi qui ai tourmenté les autres. Son épée est mon corps. Voilà la double cause de ma souffrance. Il a pris l'épée et j'ai pris le corps. Contre qui s'indigner? C'est un abcès en forme de corps que je me suis donné là, un abcès qui souffre du moindre contact. Aveuglé par le désir, comment puis-je m'irriter de la douleur qu'il endure? Je n'aime pas ma douleur, mais j'aime la cause de ma douleur, fou que je suis. C'est de mes fautes qu'elle est née. Pourquoi en vouloir à un autre? La forêt dont les feuilles sont des glaives, les gardiens des enfers, ont été engendrés par mes actes, et de même la douleur présente. Contre qui m'irriter? Ce sont mes actes qui poussent mes persécuteurs. C'est à cause de moi qu'ils iront en enfer. Ne suis-je pas leur meurtrier? Grâce à eux, mes nombreux crimes s'atténuent par l'exercice de la patience. À cause de moi, ils iront dans l'enfer aux longues souffrances. C'est moi qui suis leur persécuteur. Ce sont eux qui sont mes bienfaiteurs. Comment, renversant les rôles, oses-tu t'irriter, cœur scélérat? Si, grâce au mérite de mes bonnes dispositions, je ne tombe pas en enfer, que gagne-t-il à ce que je me préserve moi-même? Si je leur rendais le mal qu'ils me font, ils ne seraient pas sauvés pour cela. Ma pratique spirituelle serait dénaturée et mon ascèse brisée. L'esprit immatériel ne peut jamais être frappé. S'il est atteint par la douleur physique, c'est à cause de son attachement au corps. Injures, paroles brutales, calomnies, tout cela ne blesse pas le corps. D'où vient ta colère, ô mon âme? Ce n'est pas l'antipathie d'autrui qui me dévorera dans cette vie ou dans une autre. Pourquoi donc la redouter? Parce qu'elle tarit mes profits? Mais mes profits s'évanouiront dès cette vie, tandis que mes fautes demeureront dans toute leur force. Mieux vaut mourir aujourd'hui que de traîner longtemps une vie incorrecte, puisque pour moi, même après avoir longtemps vécu, la douleur de la mort sera la même. Un dormeur qui a rêvé un bonheur de 100 ans s'éveille. Un autre qui n'a rêvé qu'un bonheur d'un instant s'éveille aussi. Quand tous deux sont éveillés, leur bonheur, n'est-ce pas, disparaît. Tel, à l'heure de la mort, celui qui a longtemps vécu et celui qui a peu vécu. Après avoir gagné beaucoup, après avoir savouré de longues délices, je m'en irai nu et les mains vides, comme un homme dépouillé par les voleurs. Mais, dis-tu, grâce à mes profits, je vis, et en vivant, j'épuise mes actes nuisibles, je gagne du mérite. Quand on se fâche pour une question de lucre, C'est le mérite qu'on use et le mal que l'on gagne. Si le but même de ma vie disparaît, à quoi bon cette vie elle-même, qui ne produit que du mal ? Tu hais, prétends-tu, ton diffamateur parce qu'il cause la perte de ceux qu'il excite contre toi ? Pourquoi donc ne t'hérites-tu pas de même contre le calomniateur d'autrui ? Tu pardonnes au médisant qui est sous l'influence d'autrui. Pourquoi ne pardonnes-tu pas à celui qui te blâme sous l'emprise des passions ? Ceux qui détruisent et outragent les statues, les stupas, la doctrine, ne méritent pas ma haine, car les Bouddhas et les saints n'en souffrent pas. Si quelqu'un maltraite nos maîtres, nos parents, ceux que nous aimons, réfrénons notre colère en considérant que c'est là l'effet des causes. La souffrance des êtres est nécessairement l'œuvre d'une cause animée ou inanimée. Pourquoi s'emporter seulement contre les êtres animés ? Supporte toute souffrance, ô mon cœur. Des égarés offensent, d'autres égarés se courroucent. Qui d'entre eux, dirons-nous, innocent ou coupable ? Pourquoi as-tu fait jadis ce qui te vaut d'être à présent molesté ainsi par tes ennemis ? Nous sommes tous esclaves de nos actes. Pourquoi en vouloir à d'autres ? Ayant bien compris cela, je m'efforce au mérite spirituel, afin que tous soient animés de bons sentiments les uns envers les autres. Quand le feu se propage d'une maison à une autre, on retire la paille et les autres matières inflammables auxquelles le feu pourrait s'attaquer. De même, tout attachement qui attiserait le feu de la haine doit être éliminé à l'instant, de peur que la masse de nos mérites ne soit consumée. Si un condamné à mort est mis en liberté après avoir eu la main coupée, peut-il se plaindre ? Si, au prix des souffrances humaines, on échappe à l'enfer, peut-on se plaindre ? Si aujourd'hui une menue souffrance te semble intolérable, comment ne réfrènes-tu pas la colère qui te vaudra les supplices de l'enfer ? Par l'effet du désir, j'ai été précipité des milliers de fois dans les enfers, et cela sans profit, ni pour moi, ni pour les autres. Or, la douleur présente est bien moindre, et elle est la source d'un grand profit. Il faut se réjouir d'une douleur qui supprime la douleur du monde. Il est des hommes qui se délectent à louer les vertus d'autrui. Pourquoi, ô mon cœur, ne pas y prendre plaisir toi aussi ? C'est un plaisir irréprochable, délicieux, permis par les saints. C'est le meilleur moyen de gagner le prochain. C'est un plaisir que tu n'aimes pas ? Mais alors il faudrait avoir la même aversion pour les salaires, les aumônes, etc. On gâcherait ainsi cette existence et celle à venir. On fait ton éloge. Tu admets qu'on y prenne plaisir. On fait l'éloge d'un autre. Tu ne veux pas y prendre plaisir. Tu as suscité en toi la pensée de l'éveil par désir de rendre heureux tous les êtres. Comment peux-tu t'indigner contre ceux qui se trouvent spontanément heureux ? Tu souhaites, dis-tu, aux êtres l'état de Bouddha vénérable aux trois mondes. Et en présence de vains honneurs, tu brûles de jalousie. Cette famille dont tu es responsable et que tu dois nourrir subvient seule à ses besoins ? Et au lieu de te réjouir, tu t'irrites. Que ne souhaite-t-il pas aux êtres, celui qui leur souhaite l'éveil ? D'où viendrait la pensée de l'éveil à qui est jaloux de la prospérité des autres ? Si un autre ne recevait pas cette aumône, elle resterait dans la maison de son bienfaiteur. Dans tous les cas, elle ne serait pas pour toi. Que t'importe qu'elle lui soit donnée ou non ? Pourquoi t'écartes-tu des mérites, de la foi, des qualités spirituelles ? Dis-moi pourquoi ne pas t'emporter contre ton manque de mérite à recevoir cette aumône. Non seulement tu ne déplores pas le mal que tu as fait, mais tu prétends rivaliser avec ceux qui ont fait le bien. Si un malheur arrive à ton ennemi, pourquoi t'en réjouir ? Toutes tes mauvaises pensées ne l'accableront pas. Et fût-il réalisé par ton souhait, en quoi ce malheur peut-il faire ton bonheur ? Si tu dis « me voilà satisfait », quelle meilleure façon de causer ta ruine ? C'est un hameçon terrible que tendent ces pêcheurs, les passions. Ils te vendront aux démons infernaux qui te feront cuire dans leur chaudron. Louange, gloire, honneur ne servent ni au mérite, ni à la durée de la vie, ni à la force, ni à la santé, ni au bien-être physique. Que trouverait là celui qui connaît son intérêt? Autant s'adonner à l'alcool, au jeu, si l'on ne désire que les plaisirs des sens. Et la gloire. Pour elle, les hommes sacrifient leurs biens et leur vie. Les mots sont-ils donc mangeables? Une fois mort, goûtera-t-on ce plaisir? Comme un enfant, lorsque son château de sable est démoli, pousse des cris de détresse, ainsi m'apparaît mon cœur devant la ruine de ma réputation et de ma gloire. La louange est un son vide de pensée, dont tu ne peux dire qu'il te loue. Tu dis qu'un autre est satisfait de toi et que telle est la cause de ta joie. Qu'elle s'adresse à un autre ou à moi, que me fait cette satisfaction d'autrui? C'est lui seul qui éprouve ce plaisir. Je n'en ai pas la moindre part. Si je me proclame heureux de son bonheur, alors je dois l'être dans tous les cas. Pourquoi donc le bonheur qu'il trouve dans son affection pour un autre ne me cause-t-il aucun plaisir? Ainsi la joie n'est en moi parce que c'est moi qu'on loue. Et c'est là une conduite aussi incohérente que celle d'un enfant. Les louanges ruinent à la fois la paix de l'âme et le renoncement au monde. Elles engendrent la jalousie à l'égard des hommes de mérite et dévastent toutes mes qualités. Donc, ceux qui se lèvent pour détruire ma réputation n'ont d'autre fonction que de me préserver des lieux de tourment. Les biens et les honneurs sont une chaîne qui ne convient pas à mon désir de libération. Ceux qui me délivrent de cette chaîne, comment pourrais-je les haïr? J'allais pénétrer dans la douleur. Ils sont comme une porte fermée placée devant moi par les bénédictions des Bouddhas. Comment pourrais-je les haïr? Mais mon ennemi entrave mes bonnes œuvres. Mauvaise excuse au ressentiment, car il n'est pas d'ascèse comparable à la patience, et c'est celle dont il m'offre l'occasion. C'est par ma faute que je ne pratique pas la patience envers lui. C'est moi qui place l'obstacle devant la bonne œuvre mise à ma disposition. Celui, en effet, sans lequel un autre n'est pas, et par lequel ce dernier existe, celui-là est la cause de l'autre. Comment peut-on l'appeler obstacle? Le mendiant qui se présente en temps opportun n'est pas un obstacle à l'aumône. Le religieux qui confère l'ordination n'est pas un obstacle à la prise de vœux. Les mendiants sont communs dans le monde. Rares les offenseurs, car si je n'offense personne, personne ne m'offensera. Un ennemi acquis sans effort, c'est un trésor surgi dans la maison. Il doit m'être cher, cet auxiliaire de ma carrière spirituelle. Nous avons droit tous deux aux fruits de la patience, mais c'est à lui qu'il doit être offert le premier, puisqu'il est la cause première de ma patience. Mon ennemi n'a pas l'intention de perfectionner ma patience, il ne mérite donc pas que je l'honore. Mais alors pourquoi honorer le Dharma, qui n'est que la cause inanimée de ton perfectionnement? Mais il a dessein de me nuire. Je ne saurais honorer mon ennemi. Comment pratiquerais-tu la patience si, comme un médecin, il se dévouait à ton bien? C'est son hostilité qui conditionne la patience. Et cette cause de la patience, tu dois l'honorer comme le saint Dharma. Les êtres sont un champ de mérite, comme les Bouddhas, a dit le maître. Car en honorant les uns comme les autres, beaucoup ont atteint l'autre rive de la perfection. C'est par les êtres comme par les Bouddhas qu'on obtient les vertus d'un Bouddha. Or, la vénération qu'on témoigne au Bouddha, on la refuse aux êtres. Pourquoi cette différence? La grandeur de l'intention se mesure non à l'intention elle-même, mais à ses effets. Les êtres ont donc une grandeur égale à celle des Bouddhas. Ils vont de pair avec eux. La vénération qui s'attache à l'homme bon, voilà la grandeur de l'homme. Le mérite que produit la dévotion au Bouddha, voilà la grandeur des Bouddhas. Les êtres sont donc semblables au Bouddha, car tous deux permettent d'atteindre la bouddhéité. Mais aucun être n'est en réalité semblable au Bouddha, océan de qualités infinies. Ceux-ci concentrent en eux l'essence de toutes les qualités. Qu'un seul atome s'en trouve dans les êtres, les trois mondes ne seraient pas pour eux un hommage suffisant. Or, cette parcelle insigne qui fait lever en nous les vertus d'un Bouddha, elle est présente chez tous les êtres. C'est en raison de cette présence que les êtres doivent être honorés. D'ailleurs, quel autre moyen avons-nous de nous acquitter envers les Bouddhas, ces êtres sincères, ces bienfaiteurs incomparables, que de faire plaisir aux êtres ? Pour les êtres, ils déchirent leur corps, ils pénètrent dans l'enfer. Ce qu'on fait pour les êtres, on le fait par gratitude pour les Bouddhas. Il faut donc faire le bien, même à nos pires ennemis. Alors que mes maîtres, eux-mêmes, se dévouent sans réserve pour leurs enfants, comment pourrais-je moi témoigner aux fils de mes maîtres de l'orgueil au lieu d'une humilité d'esclave ? Les Bouddhas se réjouissent quand les êtres sont heureux. Ils sont tristes quand les êtres souffrent. Quand on satisfait les êtres, on satisfait les Bouddhas. Quand on les offense, ce sont les Bouddhas qu'on offense. Celui dont le corps est environné de flammes ne saurait goûter aucun plaisir. De même, en présence de la souffrance des êtres, les compatissants ne peuvent éprouver aucune joie. En affligeant les êtres, j'ai affligé tous les grands miséricordieux. Je confesse aujourd'hui cette faute afin que les Bouddhas qu'elle a blessés me le pardonnent. Dès aujourd'hui, pour complaire au Bouddha, de toute mon âme, je me fais le serviteur du monde. Que la foule des hommes mette le pied sur ma tête ou me tue, mais que le protecteur des êtres soit satisfait. Les compatissants ont adopté tous les êtres comme les leurs, cela n'est pas douteux. Par là, ce sont les protecteurs eux-mêmes qui apparaissent sous la forme des êtres. Comment oserait-on leur manquer de respect ? Servir les êtres, c'est servir les Bouddhas, c'est réaliser ma fin, c'est éliminer la douleur du monde. C'est donc le vœu auquel je m'oblige. Quand un homme du roi, à lui seul, brutalise la foule, ceux qui sont avisés ne résistent pas, même s'ils le peuvent, parce qu'il n'est pas isolé, mais que sa force est la force du roi. De même qu'on ne sous-estime pas un adversaire faible en apparence, car sa force ce sont les gardiens des enfers et les compatissants. Donc, conserve les êtres comme un sujet sert un roi irascible. La colère d'un roi a-t-elle des châtiments comparables au supplice de l'enfer que nous infligera le déplaisir des êtres ? La faveur d'un roi a-t-elle des récompenses comparables à l'état de Bouddha que nous vaudra le contentement des êtres ? Sans parler de la condition future de Bouddha, ne vois-tu pas qu'en cette vie, le bonheur, la gloire, la renommée résulte du service des êtres. Ne vois-tu pas que, dans le cycle de nos existences, la patience nous procure tous les biens, charme, santé, honneur, longévité et les larges jouissances d'un souverain du monde ?